RCF.
h 30, l'heure du journal présenté par Marion Torquebio. Bonjour Marion.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
Alexandre Benalla, de retour devant les juges.
Ce proche d'Emmanuel Macron avait été condamné pour des faits de violence lors de la manifestation du 1er mai 2018. Son procès en appel commence aujourd'hui. Le pape François à nouveau sous le feu de la critique. Le cardinal Müller lui reproche un centralisme excessif dans un livre qui paraît aujourd'hui. Nous entendrons la réaction du cardinal Pietro Parolin, le numéro 2 du Vatican. Et puis nous sommes le 27 janvier, journée mondiale de la mémoire de la Shoah. Nous irons au MAJ, le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, où une exposition vient d'ouvrir sur les enfants de la maison d'Isieux.
Avec le procès du Mediator, c'est l'une des affaires phares qui passe devant la justice en 2023.
À partir d'aujourd'hui, Alexandre Benalla est de retour devant les juges. Un procès en appel sur sa condamnation en 2021 pour violence. Célia Goetti, vous revenez sur un scandale qui a secoué l'Élysée.
Tout commence en 2018, manifestation du 1er mai, place de la Contrescarpe. Un homme casqué, brassard police au bras, brutalise deux manifestants sur une vidéo. Cet homme, c'est Alexandre Benalla. Il n'est pas policier, mais adjoint au chef du cabinet du président et proche du couple Macron. S'ensuit des mois de controverses qui entachent l'Élysée, qui avoue quelques mois plus tard avoir été au courant des actions de Benalla. Des images de l'homme avec une arme lors de l'élection présidentielle de 2017 sont retrouvées. On apprend qu'il n'a pas rendu ses passeports diplomatiques. Au final, c'est trois affaires en une. Alexandre Benalla est condamné en octobre dernier en première instance à 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique, une interdiction d'occuper un emploi public et une interdiction de porter une arme. Le motif, faux et usage public sans droit d'une insigne, entre autres. Aujourd'hui, c'est son procès en appel qui s'ouvre. L'homme de 31 ans nie les faits et dit avoir agi par réflexe citoyen.
Alexandre Benalla aurait demandé une demande de renvoi, a indiqué une de ses avocates. Il fait aussi l'objet de 3 autres enquêtes préliminaires. Une pour son rôle dans la signature de contrats avec des oligarques russes quand il travaillait à l'Élysée. Une pour déterminer s'il a ou non dissimulé des preuves dans l'enquête des violences du 1er mai. Et la dernière pour faux témoignage devant la commission d'enquête du Sénat.
Mobilisation contre la réforme des retraites.
Hier, les salariés du secteur de l'énergie se sont mobilisés dans les centrales, les raffineries, les ports et les docks contre la proposition de loi du gouvernement. Le mouvement sera en partie prolongé aujourd'hui à l'appel de la Fédération CGT des mines et de l'énergie, en grève reconductible depuis le 19 janvier et qui avait appelé à 48 heures de mobilisation. En plus de la journée de mobilisation collective du 31 janvier, la CGT des ports et des docks a appelé à 24 heures de grève en plus. La Fédération a également déjà annoncé qu'ils poursuivront leur action à compter de la semaine du 6 février.
Au Liban, l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth en 2020 a repris sur fond de tensions politiques et judiciaires.
Alors que l'enquête était à l'arrêt depuis 13 mois en raison de pressions politiques, il y a quelques jours, le juge d'instruction chargé du dossier, Tarek Bitar, a décidé de relancer l'enquête. Une décision qui a provoqué le mécontentement d'une large partie de la classe politique et judiciaire, dont le procureur général lui-même, inculpé dans l'affaire. Hier, ce dernier a décidé de poursuivre Tarek Bitar en justice pour tenter de le démettre de ses fonctions. Faute de soutien suffisant au Conseil des juges, hier soir, le procureur a finalement décidé de libérer 17 personnes suspectées d'être liées à l'explosion ou de détenir des informations importantes pour l'enquête. Écoutez l'analyse de Ziad Majed, politologue et chercheur franco-libanais.
Le juge d'instruction Tarek Bitar, quand il a pris le dossier, il a commencé à travailler sérieusement en enquêtant sur certaines personnes qui étaient en charge d'un ministère ou d'une administration en relation avec le port, avec tout ce qui est export-import, pour comprendre comment le nitrate d'ammonium est arrivé à Beyrouth, pourquoi les correspondances évoquant cette matière dangereuse n'ont jamais eu un suivi responsable. Et il a procédé à l'arrestation ou à la détention provisoire de 17 personnes qui, selon lui, sont suspectes et enquêtées davantage pour comprendre les différentes responsabilités. Et ces personnes-là ont été libérées. Leur libération nuit évidemment à cette enquête-là et met en danger l'enquête elle-même.
Hier, des manifestations ont éclaté dans Beyrouth où des familles de victimes ont tenté d'entrer dans le palais de justice pour soutenir le juge d'instruction. 10 Palestiniens ont été tués lors d'opérations israéliennes jeudi et vendredi en Cisjordanie et à Gaza. Il s'agit de la séquence la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la flambée de violence entre l'armée israélienne et le djihad islamique à Gaza en août 2022. Ce matin également, l'armée israélienne a annoncé avoir mené au moins deux séries de frappes contre la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes depuis l'enclave palestinienne.
Le pape François, encore une fois, cible de la critique d'un cardinal.
Cette fois, c'est le cardinal Müller, l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Dans un livre à paraître aujourd'hui, le cardinal allemand lui reproche un centralisme excessif et une synodalité qui fait courir à l'Église un risque de protestantisation. Cette semaine, le pape François réagit dans une grande interview à l'agence Associated Press. Avec le libre ton qui le caractérise, il décrit les attaques dont il est l'objet comme une éruption cutanée qui vous dérange un peu, disant cependant respecter la liberté de parole. Voici la réaction du cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Il est en France à l'occasion des journées Saint-François de Sales à Lourdes.
Le pape François, je n'ai pas parlé avec lui de ces déclarations. Mais le pape François me semble très, très tranquille. Il sait qu'il y a des gens qui ne partagent pas complètement sa vision, non, et que parfois il s'exprime à travers des critiques. Mais il accepte comme des choses qui sont... Il a dit une fois... que c'est important qu'il y soit des critiques constructives. Et je pense que c'est là le point de différence, que ces critiques soient toujours constructives et qu'elles servent à améliorer les services à l'Église, de l'Église au monde. Et je pense que le cardinal Müller avait cette intention, parce qu'on ne peut pas avoir autre intention que servir et construire l'Église, non?
Le cardinal Pietro Parolin, qui sera le grand invité de la matinale, au micro d'Étienne Pépin.
7h36, on parle à présent d'une maladie qu'on croit parfois éradiquée, mais qui persiste dans près de la moitié des pays du monde.
À l'occasion des 70e journées mondiales de la lèpre, l'OMS rappelle que 200 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année, soit 1 toutes les 3 minutes. La lèpre, une maladie infectieuse qui touche principalement la peau, mais aussi les nerfs et les voies respiratoires, et qui se transmet notamment par la salive. Elle est présente en particulier en Inde, au Brésil, en Birmanie, au Nigeria et à Madagascar. Et au-delà des conséquences sanitaires, la lèpre est souvent surnommée la maladie de l'exclusion, du fait des discriminations sociales que vivent les personnes qui en sont atteintes. Le docteur Bertrand Cauchois est membre de la fondation Raoul Follereau qui lutte contre la lèpre.
Il ne faut pas avoir peur d'un malade de la lèpre parce que la transmission, elle est faible. Mais justement, ce qui explique des familles vulnérables qui vivent dans la promiscuité, qui vivent dans un environnement confiné, s'auto-contaminent alors que la population qui passe va moins se contaminer. Donc la maladie, elle touche essentiellement la peau, mais c'est une maladie neurologique, on oublie souvent de le dire. Donc les premiers symptômes sont dermatologiques, ce qui fait toute la gravité de la lèpre, c'est que le bacille se greffe sur les nerfs périphériques et qui provoque des invalidités et des déformités des membres qui sont très invalidantes et source d'exclusion ensuite.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de la mémoire de l'Holocauste.
Dans ce cadre, une exposition incontournable est visible depuis hier au Musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris. Intitulée « Tu te souviendras de moi », elle est consacrée aux enfants de la maison d'Izieux. Réunis par Sabine et Miron Zlatin, ils étaient 44 enfants juifs de différentes nationalités, réfugiés dans cette bâtisse de l'Ain. Tous ont été raflés par Klaus Barbie le 6 avril 1944 et déportés. Âgés de 4 à 17 ans, aucun n'a survécu. Sur les 7 adultes arrêtés avec eux, puis déportés, une seule est revenue de déportation. L'exposition met en avant les tranches de vie avec de nombreux dessins de ses enfants réalisés à Izieux. Virginie Michel est la coordinatrice de l'exposition.
L'idée, c'était déjà de rendre hommage aux enfants, de montrer leurs dessins comme des œuvres, pas forcément comme juste des petits documents d'archives. L'idée aussi un petit peu originale de l'exposition, c'est d'essayer de la mettre à hauteur d'enfant, avec des couleurs au mur qui rappellent la palette utilisée par les enfants eux-mêmes, d'avoir des vitrines un tout petit peu plus basses, et puis à la fin de l'exposition, de présenter le film d'animation fait à partir des films créés par les enfants à Izieux. Les enfants dont nous montrons les dessins ont été raflés, déportés le 6 avril. L'idée, c'était vraiment de montrer la vie et de montrer voilà, aux enfants d'aujourd'hui encore la vie qui a eu lieu et le sauvetage à un moment donné qui a eu lieu pour ces enfants.
L'exposition est à découvrir jusqu'au 23 juillet au Musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris.
Merci beaucoup Marion Torquebio pour le journal de la rédaction, un journal que vous pouvez retrouver bien sûr sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, c'est le vendredi 27 janvier, j'en profite pour souhaiter une très bonne fête à toutes les Angèles et Angéliques qui nous écoutent.